L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
L'amour en action. Amen. Je vais vous inviter à pencher vos têtes avant d'aller à l'enseignement de la parole de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ta parole qui nous libère. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole dit toujours vrai. Et on peut se confier en toi. Même s'il y a des êtres humains, des fois, qui nous laissent tomber, qui peuvent mentir, Seigneur, toi, ta parole est la vérité. On te remercie, Seigneur, pour la confiance qu'on peut avoir dans ta parole. La sûreté, Seigneur, que tu nous donnes dans notre cœur. Et Seigneur, aujourd'hui, on prie que ton onction puisse couler à travers nous. Ceux qui ont besoin d'une parole spécifique, Seigneur, je prie que tu puisses leur parler ce matin à travers ma bouche. Et Seigneur, je te prie aussi de venir guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont besoin d'une touche spéciale de ta part. Seigneur, toi, tu les connais. Tu connais chaque personne. Et je prie que ton esprit fasse le travail parmi nous. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans Actes chapitre 20 et on va aller au verset 20. Ce matin, j'aimerais ça vous parler de l'amour de Dieu et l'importance de marcher dans l'amour de Dieu. Comme vous savez, prochainement, on va faire le lancement des groupes vie. Et avant de démarrer ce ministère-là dans notre assemblée, je pense que c'est vraiment important de revenir à la base, au fondement, qui est vraiment important. Et en même temps, c'est la fête des mères aujourd'hui et vous allez voir, l'enseignement va se faire avec la vision des mamans. Amen. Alors, on va toucher plein de choses. On va toucher les groupes vie, on va toucher les mamans et par la grâce de Dieu, on va vous toucher. Amen. Par la présence de Dieu. Amen. Donc, Actes, chapitre 20 et le verset 20. Il est écrit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Je vais vous demander de répéter « publiquement » et dans les maisons. Donc, l'apôtre Paul avait un ministère et lorsqu'il avait ce ministère-là, il prêchait, il enseignait publiquement dans le temple, dans peu importe où il pouvait se retrouver, même à l'extérieur, dehors, il prêchait publiquement et il prêchait également dans les maisons. Et dans nos églises, souvent, on a fait de la prédication publiquement et on a oublié une dimension dans les maisons où c'est des fois plus personnel. Vous savez, comme je prêche ici, bon, c'est le fun, on peut être un plus grand nombre. Cependant, quand vous avez des questions, c'est pas pendant le service comme ça où vous allez pouvoir poser des questions et où on va pouvoir avoir une discussion. Si on faisait ça, quelqu'un m'a déjà demandé, est-ce qu'on pourrait commencer à poser des questions à l'église? Et puis j'ai dit non, parce que ça serait comme faire un hijack de la réunion. En français, un hijack, je sais pas comment on dit ça, mais ça serait, quelqu'un pourrait prendre le contrôle de la réunion avec une question. Savez-vous ça? J'ai déjà vu ça dans une église, où les gens voulaient avoir cette fraternité-là, et il y avait quelqu'un qui pouvait interrompre le pasteur et dire, « Excusez-moi, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et moi, j'ai vu ça, et puis j'ai décidé que ça ne serait pas comme ça chez nous. Si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est correct, on est libre en Christ, mais on va s'en parler en privé. Hein, c'est la meilleure place. Parce qu'admettons, vous n'êtes pas d'accord, mais après, je vous donne des versets pour appuyer ce que je viens de dire, mais là, peut-être que vous allez être d'accord. Mais si vous êtes en désaccord publiquement, savez-vous, c'est plus difficile de reculer et dire oh, « finalement, je me suis trompé hein? ». Savez-vous, c'est comme ça. Alors, il y a un ordre dans l'Église, on prêche publiquement et dans les maisons. Et dans les maisons, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet d'avoir de l'intimité. Savez-vous, dans un groupe petit, on est plus à l'aise de partager des choses plus personnelles, n'est-ce pas, que dans la grande église où on ne se connaît pas nécessairement tous. Alors, une des choses qu'on veut faire dans notre assemblée, on veut vraiment établir ces groupes vie-là. On veut bannir l'isolation et l'individualisme de notre église. Déjà, je pense qu'on est une église déjà très proche. Vous savez, on travaille beaucoup ensemble, mais on veut s'assurer que, comme nous continuons à grandir, on veut continuer à s'aimer et bien se connaître et avoir des liens bien tissés. Et on ne veut pas vivre d'une façon individuelle, comme dans la société. Qu'est-ce qui est très populaire dans la société? C'est bien, on se connaît à peine. Des fois, on a un voisin, on ne sait même pas c'est qui notre voisin, on ne se dit même pas bonjour. Et je pense, dans le corps de Christ, ce n'est pas la volonté de Dieu que ce soit comme ça. Amen. Dieu veut qu'on puisse se connaître, qu'on puisse connaître les fardeaux des uns et des autres et prier et de s'aimer vraiment. Je crois vraiment que c'est le modèle biblique. Et le corps de Christ, je crois, comme j'ai expliqué la semaine passée, une main n'est pas là, une autre main là-bas. Une main, hein, les deux mains sont proches l'une de l'autre. Et le corps de Christ est supposé travailler ensemble et être bien coordonné, comme c'est la volonté de Dieu. Je vais vous définir aujourd'hui c'est quoi les groupes vie qu'on va démarrer prochainement. Juste pour vous laisser savoir que c'est pas juste une étude biblique à la maison. C'est différent parce que la vision est différente. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est totalement différent que juste faire une petite rencontre dans une maison où on étudie la Bible. Donc, la définition des groupes vie, c'est des groupes de 3 à 15 personnes qui se rencontrent à chaque semaine à l'extérieur d'un bâtiment d'église. OK, donc, si on faisait des réunions de 3 à 15 personnes dans une église, dans un bâtiment d'église, ça ne serait pas un groupe vie. Parce que pour faire partie d'un groupe vie, il faut que ça soit à l'extérieur. Parce que Dieu nous a dit, allez par tout le monde. Donc, Dieu nous appelle à aller vers les gens, n'est-ce pas? De sortir de nos 4 murs et d'aller ailleurs. Des fois, ça peut être dans une résidence. Donc, des groupes de 3 à 15 personnes qui se rencontrent à chaque semaine à l'extérieur de l'église dans le but de l'évangélisation. Comme j'ai expliqué la semaine passée, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'aller évangéliser, partager notre foi à fret en québécois, hein? D'aller rencontrer quelqu'un sur la rue et commencer à évangéliser. C'est pas nécessairement la façon la plus facile pour nous. Donc, dans ces groupes maisons-là, on va avoir le but d'évangéliser. Ensuite, dans le but de la communauté, la croissance spirituelle et la multiplication comme objectif. Donc, on peut commencer avec 3 personnes jusqu'à 15, mais quand on est rendu à 15, c'est certain qu'on n'ira pas à 16. Faut se séparer pour se multiplier davantage. Et c'est comme ça que ces ministères-là peuvent grandir. Comme ça, on peut se multiplier et être bénis ensemble. Donc, l'objectif, en partant, vous savez que vous ne serez pas toujours avec les mêmes personnes. Donc, votre dépendance va toujours demeurer sur Christ. Même si vous pouvez avoir un support de vos frères et de vos sœurs, faut pas avoir un support qui est mauvais où on devient dépendant et devenir même des dépendants affectifs sur une personne. Notre dépendance doit toujours demeurer sur le Seigneur. Amen? Donc, je crois que c'est sain, ça va être bon pour l'Église et je vais vous expliquer un petit peu les objectifs. Des groupes maisons plus précisément. Donc, c'est de cultiver notre relation avec Jésus. Certainement, on va se rencontrer pour cultiver notre relation avec le Seigneur. On ne parlera pas de hockey pendant la soirée. Ce n'est pas l'objectif de parler de la danse, peu importe. L'objectif, c'est de parler de Jésus. Amen. Croissance spirituelle. Donc, on va faire du discipleur et de la formation de disciples également. Donc, le disciple victorieux, ça se peut très bien que ça va revenir aussi dans ces cours-là. La communauté, donc moins de 15 personnes et à l'extérieur de l'Église. L'évangélisation, donc, votre groupe maison est ouvert aux inconvertis. C'est l'objectif. C'est d'être ouvert aux inconvertis. S'il y a des gens qui disent, ben nous, on est bien entre nous autres et on aime ça partager, c'est pas la raison pour laquelle on se rencontre. C'est pas juste pour être bien entre nous. Parce que là, on devient une petite clique. Hein? Mais l'objectif, c'est d'être ouvert à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Comme ça, ils puissent côtoyer des croyants qui ont été touchés par Dieu et que par après, eux aussi se disent, bien moi aussi, je vais être touché. Hein, c'est merveilleux. Mon épouse parlait hier avec quelqu'un qui me disait, ben moi, je crois pas en Dieu. Et puis, mon épouse, hier, comme elle priait pour les dames, elle a commencé à partager le Seigneur Jésus. Et puis, lui a dit, est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus? Et la femme a dit, oui, j'aimerais ça. Voyez-vous, elle a vu la touche de Dieu sur la vie de ma femme, sur la vie du pasteur Chantal. Elle a vu quelque chose. Et même si intellectuellement, elle se disait, moi, je crois pas en Dieu. Mais ça n'a pas pris grand temps. Elle a cédé sa vie à Jésus parce qu'elle était touchée par quelqu'un qui avait été touché. Donc, c'est la même chose pour nous. On doit avoir cette vision-là. L'évangélisation, donc, et la multiplication. Donc, l'ADN de les groupes vie, c'est de donner la vie à d'autres groupes. OK? Donc, avant même de commencer, vous devez savoir que votre groupe ne sera pas toujours pareil. Et si vous dites, ben moi, ça fait 10 ans que je côtoie ces personnes-là et je veux toujours être avec eux, ben peut-être c'est malsain d'être toujours avec les mêmes personnes. Savez-vous ça? Des fois, on développe une dépendance sur une personne et Dieu veut nous faire vivre une transition vers une dépendance sur lui. Et l'autre chose, le dernier point, c'est une régularité. Donc, des rencontres hebdomadaires. Donc, on va faire ça chaque semaine. Et je pense qu'on va avoir vraiment du bon temps. Gloire à Dieu. Et comme j'ai expliqué la semaine passée, c'est une réponse à mes prières. Comme je priais, je demandais la direction de Dieu. Le Seigneur a entrepris, m'a dirigé vers ça. Et ça a été confirmé dans la même semaine deux fois. Alors, gloire à Dieu pour ça. Et on se dit, ben c'est merveilleux, on a une vision pour la multiplication dans notre assemblée. Mais avant de démarrer ça, je veux revenir à des principes de base. Et c'est pour ça aujourd'hui, le message s'intitule « L'amour en action ». L'amour en action. L'amour, c'est un verbe. Savez-vous ça? On peut dire, bien, c'est pas vraiment un verbe selon la langue française, mais selon ma théologie, oui. Aimer. Aimer, c'est un verbe. N'est-ce pas? Le mot amour, peut-être pas, mais le verbe aimer, c'est un verbe absolument. Et le Seigneur veut qu'on puisse être renouvelé dans notre intelligence au niveau de l'amour, qu'on puisse s'aimer véritablement les uns les autres. Parce que si on n'est pas renouvelé là-dedans, savez-vous, on va commencer des groupes vie. Et si on oublie de s'aimer, et si on oublie les principes que je vais vous partager aujourd'hui, quand un inconverti vient et voit des choses qui sont en dehors de l'amour de Dieu, au lieu d'être attiré vers nous, les personnes vont être repoussées. Est-ce qu'on veut vivre ça en assemblée? Non, non, on ne veut pas vivre ça. On veut vivre vraiment le plan de Dieu. Alors ce matin, j'espère que vous êtes encouragés parce que vous allez avoir une dose de l'amour de Dieu injectée en vous, je crois. Et on va toujours garder la perspective de nos mamans aujourd'hui parce que c'est la fête des mères et on va faire cet hommage à nos mères. Mais le bon fondement, OK, premièrement, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, je vais vous inviter là, on va voir vraiment que chaque ministère doit avoir ce même fondement. Amen. Un fondement, il n'y en a pas d'autre. C'est 1 Corinthiens, chapitre 3. On va aller au verset 9 jusqu'à 11. Il est écrit... Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voyez-vous, vous, en tant que personne, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'Église. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, le fondement de tous les ministères qu'on peut incorporer dans notre Église ou établir doit être basé sur Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Jean 4 et le verset 8, ça nous dit que Dieu est amour. Nous savons que Jésus est Dieu. Le fondement, c'est Jésus-Christ, et ça donne que Jésus est amour. Dieu est amour. Donc, la base pour plaire à Dieu, pour plaire au Seigneur Jésus, ça veut dire qu'on doit marcher dans l'amour, et ça doit vraiment être une vision constante devant nous. Et c'est un défi aussi de marcher constamment dans l'amour. Savez-vous pourquoi? Parce que comme nous sommes des êtres humains, le problème avec les êtres humains, comme dirait Joyce Meyer, j'aime bien ça, je trouve ça drôle, elle dit, il y a juste un problème avec les personnes, elle dit, c'est que ça donne, ils sont partout. C'est ça le problème avec le monde, c'est qu'il y a du monde partout. Et quand il y a du monde partout, il y a des problèmes partout. Parce que des êtres humains, ben les êtres humains sont imparfaits, n'est-ce pas? Oui, vous êtes imparfaits, moi aussi. On est tous imparfaits. Alors, quand on a plein de personnes imparfaites ensemble, des fois, il peut y avoir des flémèches. Des fois, il peut y avoir des blessures. Et si on ne sait pas gérer ces blessures-là, et si on n'est pas conscient et on n'a pas la vision devant nous qu'on veut marcher dans l'amour constamment, bien, ça se peut qu'on va marcher dans la chair. Et là, savez-vous qu'est-ce qui se passe si on marche dans la chair? Ça cause la division dans le corps de Christ. Ça, c'est l'agenda de l'ennemi. Dieu a un agenda de bénir le corps de Christ. Son agenda, c'est de faire grandir l'Église, c'est de voir les gens édifiés, comme j'ai donné les points ici, d'avoir une croissance spirituelle. Dieu veut voir toutes ces choses-là dans notre Église. Mais même si Dieu a un projet, l'ennemi, lui aussi, a son agenda. Et son agenda, c'est au lieu de vivre la croissance spirituelle, il veut voir l'inverse. Tout ce que Dieu veut faire parmi nous, l'ennemi veut faire l'inverse. Et l'ennemi va semer des pensées pour vous dire comment c'est impossible de vivre des groupes vie en santé et des groupes de croyants où les gens s'aiment vraiment. Mais savez-vous, même si ça a été impossible ailleurs, ici, ça va être possible. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on va choisir de marcher dans l'amour. Et c'est pour ça, c'est la base. L'amour, c'est toujours la base. Et si on revient toujours à cette place-là où on décide de marcher dans l'amour, vous savez, on va toujours réussir. Parce que l'amour ne faillit jamais. L'amour ne faillit jamais. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 8, ça dit, la charité ne périt jamais. En français, on dit périt jamais. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration sur l'amour. On peut aimer longtemps et malgré des obstacles et malgré des difficultés. Donc, ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 13 et on va examiner un peu l'amour et le chapitre sur l'amour pour vraiment se rappeler de ces choses de base. Mais si on oublie la base et si on oublie le fondement, on va bâtir sur quelque chose qui ne sera pas solide. Et Dieu veut qu'on puisse être solidement établi. Amen. Donc, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 13 et on va commencer au premier verset. Il est écrit, « Quand je parlerai des langues, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point dans l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Alors, je vais arrêter cela pour aujourd'hui. On va voir l'amour comme un verbe. Bien, le point numéro un que j'aimerais attirer votre attention ce matin, c'est sur l'amour sait communiquer. On peut voir ça ici dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Ça dit la charité ou l'amour est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Donc, la charité est pleine de bonté. OK? C'est le premier point. Et quand on est bon et quand on marche dans la bonté de Dieu et la nature de Dieu, on va savoir communiquer à nos frères et à nos sœurs. Ça, c'est le point le plus important. Savoir bien communiquer, bien discuter. Des fois, on peut avoir une conviction personnelle. Et peut-être vous avez raison. Et peut-être aussi, c'est la vérité. OK? C'est vraiment la vérité. Mais Dieu nous appelle à marcher dans l'amour pour savoir quand le dire et comment le dire. Donc, Dieu nous appelle à avoir du tact. Vous avez déjà entendu parler de ça? Du tact. Amen. Donc, Dieu nous appelle à être sensibles. Si on est plein de bonté, cette charité-là qui est en nous est pleine de bonté, bien, on va avoir un cœur disposé envers les gens qui nous entourent, que ce soit dans un groupe vie, que ce soit dans notre travail, peu importe où on se retrouve dans la vie, si la bonté de Dieu est en dedans de nous et l'amour de Dieu, tout ça, on va être sensible aux émotions des gens autour de nous. Et peut-être pour vous, ça va être un défi. Pour certaines personnes, c'est super facile. Il y en a qui sont vraiment de nature, sont super sensibles déjà. Il y en a, ça ne sera pas difficile. Mais pour d'autres personnes, peut-être vous avez un arrière-plan un petit peu plus difficile parce que, bon, peut-être vous avez eu des gens qui vous ont maltraité dans le passé et puis là, vous avez créé ce genre de mécanisme de défense où vous êtes un petit peu moins sensible, peut-être plus insensible que d'autres. Ça se peut, il y en a comme ça parmi nous. Mais Dieu, il veut changer nos cœurs pour devenir sensibles. Donc, Dieu va nous rappeler quoi dire, comment le dire, et surtout, quand le dire? Savez-vous aussi? Et devant qui le dire? Peut-être vous avez quelque chose à partager à quelqu'un, mais Dieu va vous appeler à le dire en privé pour protéger les émotions de la personne. Et je crois que si on met ça devant nos yeux constamment et on veut être sensible et se préoccuper des gens et faire attention aux émotions de nos frères et de nos sœurs, on va vraiment voir la main de Dieu en opération avec nous. On va voir sa main de bénédiction. Et ça, c'est le point numéro un, je pense, un des points les plus importants. Parce que la raison pourquoi il y a des divisions dans les églises, c'est souvent à cause de ça. Il y a des désaccords où quelqu'un dit quelque chose et ça vient nous chercher, ça nous blesse. Et puis des fois, les gens vont dire, « Ben moi, je quitte l'église parce que j'ai été blessé une fois et puis j'ai peur de me faire blesser à nouveau. » Mais c'est sûr qu'en tant qu'être humain, attendez-vous d'être blessé. je peux vous prophétiser, vous allez blesser à quelque part un jour dans votre vie. Si vous n'avez jamais été blessé, ben gloire à Dieu, mais je vous prophétise, un jour, quelqu'un va vous déranger, va vous blesser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire devant une blessure? C'est soit qu'on laisse le Seigneur nous guérir et qu'on relâche la personne, ou on fuit. OK? Mais Dieu ne nous appelle pas à fuir, Dieu nous appelle à rester connecté avec le corps de Christ, mais en même temps, ensemble, qu'on puisse apprendre à grandir. C'est pour ça que c'est important d'être dans une église locale où les gens se connaissent comme ça. On peut grandir ensemble, connecter ensemble, servir le Seigneur ensemble et voir la gloire de Dieu éclater ensemble. Amen. C'est le plan de Dieu et on va y arriver. Amen. Donc, le Seigneur vous appelle à être sensible. Ou sinon, autre chose, l'amour, c'est louer Dieu et ses créatures. C'est une chose importante. 1 Corinthiens 13, 4, le même verset. Ça dit, la charité ne s'enfle point d'orgueil. Savez-vous, il y a une forme d'orgueil où c'est l'incapacité de complimenter quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un, OK, vous faites quelque chose de bien ou vous venez de vous acheter quelque chose, peu importe, et les personnes ont de la misère à vous féliciter, ont de la misère à louer. On se dit, bien là, il faut louer Dieu. Il faut adorer Dieu seulement. Mais louer, savez-vous, oui, on va louer Dieu, mais Dieu nous appelle aussi à se louer les uns les autres. Dans quel sens? Pas se prosterner, c'est pas ça. Mais de féliciter, de complimenter, de dire, « Hey, quand tu as fait ça, là, je trouve vraiment, j'ai été super béni de te voir aller. » Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. On veut vivre une église en santé, il faut être prêt et être généreux dans nos paroles. Et pas d'en inventer, pas faire semblant de se créer des compliments pour commencer à manipuler les gens. Non, c'est pas mieux ça. Mais vraiment que ça vienne du cœur. Si vous vous êtes béni par quelqu'un, vous voyez quelqu'un, admettons Patrick, il a bien fait le son ce matin. Mais vous pouvez lui dire, Patrick, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a une façon de le dire, rappelez-vous au tact. Admettons, vous dites, Patrick, à matin, finalement, c'était bon, là, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas la même chose que dire, vraiment, j'ai été béni. Hein? On veut avoir le tact, mais il faut aussi que ces compliments-là puissent sortir. Moi, j'aimerais ça voir une église davantage où les gens se célèbrent. Parce que Dieu aime ça. Savez-vous ça? Dieu aime ça, qu'on puisse se bénir mutuellement. Et quand ça dit « la charité ne semble point d'orgueil », il y a des gens, c'est difficile que le mot « félicitations », c'est difficile de leur sortir ça de la bouche parce qu'ils ont dans la tête, et des fois, c'est un bagage aussi qui vient, mais c'est si je dis que tu as bien fait ça, tout d'un coup, c'est comme si je suis en train de m'abaisser et je suis en train de dire que moi, je suis moins que rien. Et il y a des gens qui pensent comme ça, savez-vous ça? Des gens qui refusent de vous féliciter ou de se réjouir avec vous. Vous venez de vous acheter quelque chose, vous êtes content et les gens font le tour de votre nouvelle maison. Qu'est-ce qui se passe? La personne est orgueilleuse, elle se sent est peut-être jalouse de vous. Des gens qui font le tour d'une maison, qui disent rien là, c'est des gens jaloux, je vais vous le dire. Je vais vous dire, c'est des gens jaloux. C'est soit que votre maison est très, très laide, là, aussi, peut-être. Mais habituellement, là, quand vous êtes content, vous faites le tour d'une maison, puis hey, je me suis acheté une nouvelle maison. Moi, je me souviens, j'ai été voir la maison d'un ami quand on était en Alberta. Il venait de se construire une belle, grosse maison. Puis il dit, venez voir notre maison. Nous, on était dans un beau petit semi-détaché, OK? On était bénis, mais sa maison était beaucoup plus belle que la nôtre. Mais en tout cas, on va voir sa maison. Et là, dans chaque pièce, on dit... « Wow, mais ça venait de notre cœur. Hey, mais c'est donc bien beau. On aime les moulures. On trouvait ça fantastique. On se réjouissait avec eux. Et eux, ben, ils étaient contents de nous avoir dans leur maison. Ils se réjouissaient avec nous. Puis ils étaient contents qu'on était contents. Tout le monde était content qu'on était contents. Voyez-vous? Mais c'est important d'être content pour les autres et de se réjouir et de féliciter. Ils ont eu un autre couple qui sont allés dans leur maison. Ils ont fait le tour. Zéro commentaire. Qu'est-ce que ça dit, ça? La personne est jalouse, ça me tape ses nerfs. Comment ça, ils sont bénis de même? Moi, je ne suis pas béni de même. C'est quoi l'affaire? Mais savez-vous, quand moi, je visite une maison et je vois la personne bénie, je me dis, ben moi, je suis le prochain en ligne pour être béni. Hein? Je suis le prochain. Dieu va me bénir moi aussi. Je n'ai pas besoin d'être jaloux et je n'ai pas besoin de me sentir abaissé et me dire, ben moi, je vis dans un semi-détaché, le Seigneur m'a oublié. Vous savez, ça dépend tout de notre perspective. Si on pense, « Hey, ils sont bénis, gloire à Dieu, moi aussi, je suis un enfant de Dieu, Dieu aussi va me bénir, je suis le prochain en ligne de recevoir la bénédiction. » Gloire à Dieu, on peut se réjouir comme ça avec les autres. Mais dans notre assemblée, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut pas avoir l'orgueil qui va dominer et puis qu'on va avoir peur de féliciter les gens, de se réjouir avec les gens. Mais non, on va être prêt à célébrer les uns les autres. Amen? Une autre forme d'orgueil, bien, c'est l'autopromotion. Ça, c'est facile aussi. Vous connaissez des gens? Ben, tu sais, j'ai un très gros salaire de Saint-Cy. Je dis gloire à Dieu parce que, tu sais, des fois, on peut rencontrer des gens qui vont nous dire toutes sortes d'affaires. OK, l'autopromotion ou, ben, nous autres, à notre église, en tout cas, gloire à Dieu, on est assez hot. Finalement, on est les plus hot en ville. Puis, on dit alléluia, merci Jésus, parce que nous autres, on l'a l'affaire. Savez-vous? On ne voudrait pas faire ça. Hey, Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, savez-vous, si on fait ça, et je n'ai jamais entendu personne faire ça, mais admettons si on faisait ça, Dieu dit dans la parole, il résiste aux orgueilleux. Et dans le grec, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est toutes les forces, Dieu va déployer toutes les forces célestes à venir contre nous. Dieu résiste, mais pas d'une petite façon, mais Dieu va vraiment nous résister, nous empêcher d'aller de l'avant. Donc, quelqu'un vous dit, admettons, ben, notre église est la meilleure. Bien, vous dites, ah, ben gloire à Dieu. Priez que nous autres aussi, on puisse apprendre de vous. Priez pour nous. OK? On va juste bénir les gens et on va continuer à grandir et à être bénis. Mais l'autopromotion, regardez bien Philippiens 2, 3, ça dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Imaginez, on voit les autres toujours au-dessus de nous-mêmes. Peut-être vous dites, ouais, mais nous autres, ça va mieux à ce niveau-là. Peut-être, mais peut-être eux, ils vont mieux dans un autre niveau et on a une chose à apprendre d'eux aussi. Savez-vous ça? Il faut toujours se rappeler, on a des forces, mais on a aussi des faiblesses. Alors, peut-être le Seigneur va faire en sorte qu'on va côtoyer d'autres églises, d'autres croyants pour aller chercher des forces et qu'on puisse grandir ensemble. Et si on se côtoie, eux aussi vont apprendre des forces de nous. Et là, au lieu de vivre la compétition dans le corps de Christ, on va se complémenter. Ah, mais là, ça taperait sur les nerfs de Satan. Mais heureusement, on ne travaille pas pour lui, on travaille pour Dieu. On va se complémenter, on va grandir ensemble. Donc, on veut louer Dieu pour ses hauts faits, on veut louer Dieu et ses créatures. On veut célébrer qu'est-ce que Dieu fait parmi nous et à l'extérieur de nos quatre murs. Amen. Aussi, une autre chose, l'amour, c'est donner. J'en ai parlé un petit peu. On peut donner des paroles, des félicitations, tout ça aussi. Mais c'est une recherche active à bénir les gens, d'être créatif pour rendre les gens joyeux, rendre les gens heureux. Si vous êtes dans un groupe, vous pouvez rechercher même pendant la semaine et dire, « Seigneur, comment est-ce que je peux bénir cette personne-là? » Et peut-être le Seigneur va vous inspirer et vous dire, « Bien, peut-être tu devrais y aller y acheter une boîte de chocolat cette semaine. » Juste lui dire comment tu l'aimes. Savez-vous, ça coûte pas cher des fois à démontrer de l'amour. Surtout moi, j'aime ça le chocolat. Mais sérieusement, mais c'est vrai, des fois là, le Seigneur, moi je pense que c'est tellement facile de plaire au cœur de Dieu. Des fois là, on passe notre temps, on passe à côté des façons faciles de bénir les gens. Et des fois, on est plus occupé à parler des gens, mémérer. Hein? Des fois, c'est plus facile de dire, ouais, et parler. Mais si on se préoccupe à bénir les gens, hey, ça va être merveilleux, n'est-ce pas? Vous allez penser, comment est-ce que je peux bénir mon directeur, mon leader cette semaine de notre groupe vie? Comment est-ce que je peux bénir cette personne-là? Et là, vous avez ça dans la tête. Toute la semaine, vous priez et Dieu vous donne quelque chose. Admettons, tout le monde dans le groupe prie, Seigneur, comment est-ce que je peux bénir mon leader cette semaine? Et là, vous arrivez là, vous avez tous été inspirés avec une boîte de chocolat. Bien là, le leader va être super content. Hein? Non, mais c'est vrai. Mais aussi, c'est pas juste pour les leaders. C'est pas juste pour les leaders, ça peut être pour quelqu'un dans le groupe aussi. Le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine de te bénir. Ah ouais, comment ça? Bien, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Il m'a dit de vous acheter une passe pour aller au cinéma, toi puis ton mari. Le cinéma, le pasteur, il est pour ça le cinéma? Oui, je suis pour ça le cinéma. Il faut choisir les bons films, par exemple. Hein? On regarde sur l'Internet, voir c'est quelle sorte de classification, puis si c'est bon, on y va. Hein? Faut pas être plus légaliste. Faut pas se faire semblant qu'on vit pas les chrétiens. Faut vivre, mais faut bien vivre. Hein? C'est juste ça. Pas de complications. OK. L'amour, c'est donner, recherche le bien. Et Dieu, c'est l'exemple parfait, hein? N'est-ce pas? Le meilleur de soi, c'est Dieu qui l'a donné dans Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 1 Corinthiens 13, 5, ça dit, bon, en parlant de la charité, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Si l'amour ne cherche pas, ou la charité ne cherche pas son intérêt, ça veut dire qu'elle cherche l'intérêt des autres. Hein? On cherche l'intérêt des autres. C'est ça que ça veut dire. On cherche à bénir les autres. Et je peux vous dire un petit peu, dans ma vie, moi, j'ai été béni, très béni. J'ai vu les bénédictions du Seigneur par ma mère et par mon épouse. Bon, Mathilde, elle sort, elle s'en va à la chocolaterie. Ça donne, on parle beaucoup de chocolat ce matin. Mais elle s'en va à la chocolaterie pour acheter un cadeau pour quelqu'un d'autre. Mais elle voit des pâtes d'amande. Moi, j'aime ça, de la pâte d'amande. Puis elle arrive à la maison, puis elle dit, « Tiens, mon amour, je te donne des pâtes d'amande. » Ça, elle recherche mon bien. Ça fait du bien. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, recevoir des pâtes d'amande. Mais, et la même chose. Admettons, on va magasiner. C'est impossible de magasiner sans que ma femme pense à mes filles. Bon, on magasine, peu importe le magasin, Mathilde va penser à nos filles. Ah, mais ça, mes filles aimeraient ça. Peut-être Florent aimerait ça. Peut-être Félicité aimerait ça. Elle cherche l'intérêt de ses filles. Et comme on peut vivre ça dans notre famille, Dieu veut qu'on puisse le vivre dans une famille d'église aussi. Qu'on puisse être activement impliqué là-dedans, à savoir bénir les gens. Une autre chose que je trouve importante, dans 1 Corinthiens 13, verset 5, ça nous dit ici, bon, qu'est-ce qui est important comme principe? C'est l'amour sait pardonner aussi. Okay? Ce n'est pas écrit explicitement, mais je peux vous montrer ici pourquoi je le dis. 1 Corinthiens 13, 5, ça dit, « La charité ne cherche point son intérêt ou sa propre justice. » Une autre façon qu'on peut le voir, mon intérêt. Des fois, on veut toujours se défendre dans notre situation et de se justifier. Okay? Elle ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, elle ne recherche pas son intérêt et dit « j'ai raison ». Non, l'amour, quand l'amour est vraiment actif dans nos cœurs, ça veut dire qu'on est prêt à pardonner facilement et rapidement. On est prêt à relâcher les gens. « Ouais, mais t'as acheté du chocolat pour tout le monde dans le groupe, sauf moi. » J'avoue que ça serait assez blessant. Ça serait légitime d'être blessé. Mais peut-être la personne a oublié que tu serais là. « Mais c'est encore pire, m'a oublié. » Mais peut-être elle a été préoccupée. On ne sait pas les raisons pour toutes. Hein? On ne sait pas toujours pour tout, mais on doit être prêt à relâcher les blessures et pardonner. Moi, je peux vous dire que ma mère, ça n'est une numéro un. On fait hommage aux mamans. Je peux vous dire, ma mère, moi j'étais jeune des fois, puis je voyais des choses où quelqu'un pouvait lancer des platitudes, des insultes en pleine face. Puis ma mère était comme si rien n'était. Là, j'étais comme, mais maman, cette personne vient de t'insulter, ça ne t'affecte pas. Oh ben non, ça ne me dérange pas, moi. Mais ça, c'est l'amour en opération. Hein? Ma mère oublie les insultes immédiatement, zéro rancune. Elle ne soupçonne pas le mal, même quand c'est mal, elle ne le soupçonne pas. Et j'étais comme, mais c'est pas correct, ça. « Oh, ça ne me dérange pas. » Elle relâche rapidement. Ce n'est pas mieux non plus d'abuser de ces gens-là. Mais peut-être, vous, c'est le contraire. Peut-être vous soupçonnez le mal chez tout le monde. Quelqu'un vous donne une belle boîte de chocolat. « Coudonc, quoi? J'ai-tu l'air trop maigre? » Non, mais on ne sait pas. Il y a des gens aussi, on peut leur dire, « Ah, j'aime ta coupe de cheveux. »« Ah, tu l'aimes même pas avant? Quoi, j'étais laide avant? » Hein? Il y a toutes sortes de répliques, des fois. Des fois, on soupçonne le mal. Des fois, on prend des compliments, puis au lieu de les prendre vraiment comme véridiques, il y a des gens qui ont de la misère avec des compliments. Ils ont de la misère à recevoir de l'amour. Mais Dieu veut qu'on puisse être ouvert à ça. On pardonne facilement, on relâche les gens facilement, on bénit facilement, on grandit aussi facilement comme ça. Amen. Une autre chose, le même verset, 1 Corinthiens 13, 5, il ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Avez-vous déjà rencontré des gens irrités? Non, hein? Je suis seul. Je sais. Mais des gens qui sont irrités, vous les côtoyez et puis peut-être vous rencontrez des gens comme ça et c'est tellement évident. Ils disent rien, mais tout ce qu'ils dégagent, c'est sont irrités. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont irrités. Et ça se peut que l'arrière-plan de la personne, peut-être la personne a été élevée avec des gens irritables et irrités avec eux. Et là, ils sont conditionnés à être irrités. Et là, des fois, on les côtoie et ils sont irritables. Bon, mais le vrai amour de cette personne-là, l'amour de Dieu, si vous êtes cette personne irritée, laissez l'amour de Dieu couler à travers vous et laissez le Seigneur vous guérir. OK? Parce que ça va être encore plus merveilleux pour tout le monde. Parce que des fois, vous avez dit, ça me tape ses nerfs. Savez-vous, même si vous êtes chrétien, ça se peut qu'il y ait des choses qui vont vous taper sur les nerfs. Je sais, c'est une révélation. Mais on va regarder ça ensemble. C'est très profond. On va regarder ensemble dans Galates 5, versets 1 à 6. Savez-vous, la chose la plus difficile dans le ministère, c'est pas le ministère. La plus grande chose dans le ministère, c'est de faire affaire avec les êtres humains. Parce que c'est les êtres humains qui sont compliqués. Le service pour Dieu, c'est pas compliqué. C'est de travailler ensemble qui est le défi. C'est pour ça que souvent, il y a l'avortement dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Il y a un beau projet qui commence, mais l'ennemi vient souffler ses idées, et puis les gens marchent dans la chair, et puis le projet vient d'avorter. Mais c'était un projet de Dieu. C'est pas que Dieu a dit, bah, après 2-3 rencontres, c'est fini, ça vient de s'éteindre. Non, c'est les gens qui ont arrêté de marcher dans l'Esprit de Dieu, dans l'amour de Dieu. Mais nous, on va déjouer les plans du diable. Merci, Jean. Amen. On va se réveiller avant. Pas après dire, oh, on n'aurait pas dû faire ça. Non, on va se réveiller avant et on ne le fera pas. Amen. Est-ce que c'est possible de marcher dans l'amour, de choisir l'amour? Moi, je pense que c'est possible. Bon, dans Galates chapitre 5, on va aller jusqu'au verset 6. Ici, on voit que l'apôtre Paul écrivait à ceux qui retournaient, l'Église qui retournait dans la loi, sous la loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Là, l'Église était rendue sous la grâce et Dieu, par l'apôtre Paul ici, l'apôtre Paul, par Dieu, plutôt sous l'inspiration du Saint-Esprit, exhorte l'Église ici à demeurer dans la grâce. Galates chapitre 5 et verset 1. Ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Parce qu'ici, là, les Juifs disaient, les Juifs chrétiens, les nouveaux messianiques, si on veut, disaient, bien là, pour être correct devant Dieu, même si vous êtes un gentil ou un païen, vous devez vous faire circoncire pour plaire à Dieu. Mais ça, c'était la loi juive. Maintenant, on était sous la grâce et l'apôtre Paul dit au verset 3, « J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez quitté le principe de la grâce, vous voulez retourner sous la loi. Verset 5, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Donc, la base, c'est la foi. Verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Remarquez ici, la foi qui est agissante par l'amour. Vous dites, « Ben moi, j'ai beaucoup de foi. » Mais si vous n'avez pas l'amour, elle n'est pas agissante. Ça ne donne rien. Donc, il faut marcher dans l'amour. Il faut marcher dans la grâce. Quand on dit « l'amour ne s'irrite point », ça veut dire que c'est un amour qui est prêt à relâcher les choses et de marcher véritablement dans la grâce de Dieu. Peut-être que vous avez eu une mère qui n'était pas gracieuse. Peut-être toute votre vie, vous vous êtes fait taper sur la tête et dire « t'es moins que rien, t'es pas bon, tu seras jamais bon ou tu seras jamais bonne ». Peut-être que c'est ça votre héritage. Mais là, vous devez réapprendre la bonté de Dieu dans votre vie, être renouvelé. Comme ça, vous pouvez donner cet amour aux autres. C'est super important. Et comme l'Église devait réapprendre des choses, et ces Juifs-là qui venaient d'être sauvés, ils devaient réapprendre des choses, que non, ce n'est pas la loi, c'est la grâce aujourd'hui. C'est pareillement pour nous aujourd'hui. Nous aussi, on est appelés à marcher dans la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la grâce? Ça veut dire être prêt à rechercher la paix avec tous en tout temps. Hébreux 12, 14, il faut rechercher la paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher d'avoir toujours raison. Des fois, on a raison, mais on va se taire. Pourquoi? Pour gagner la paix. On va gagner la paix comme ça, on va dire, si c'est pas important de me défendre, moi, je ne mériterai pas, je vais marcher dans l'amour, et puis Dieu va y montrer plus tard que j'avais raison. On peut se consoler comme ça. Non, mais c'est vrai. On le sent entre les mains de Dieu, Seigneur. Moi, j'ai une conviction, mais sais-tu, pour gagner la paix, marcher dans l'amour avec tout le monde, je ne ferai pas obstacle au groupe, je ne ferai pas obstacle à tout le monde, puis dire, j'ai raison, puis cette personne de Satan, puis... Non, il faut marcher vraiment dans l'amour. Donc, une autre chose, même verset, 1 Corinthiens 13, verset 5, ça dit, elle ne cherche point son intérêt, donc elle ne va pas se défendre, elle ne va pas garder des vieilles offenses. Connaissez-vous des gens? Admettons. Ça fait 25 ans qu'ils sont sauvés, mais ils se rappellent en 1939 que quelqu'un a fait quelque chose contre eux autres. Et puis, ils vont garder ça. Et je me souviens, cette personne-là m'a fait ça. Oui, j'ai pardonné, mais plus jamais qu'elle va me refaire ça. Là, vous ressentez l'amour de Dieu débordé. Je sais. Et oui, vous êtes convaincu que la personne a vraiment pardonné, mais ce n'est pas vrai finalement. Parce que l'amour, c'est oublier. L'amour véritable de Dieu, si vous avez pardonné quelqu'un qui vous a offensé, l'amour, c'est oublier. Parce qu'elle ne cherche pas son intérêt, elle ne cherche pas à toujours se montrer à tout le monde qu'elle a raison. Hébreux 10, 17, Dieu a dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Donc, si Dieu est capable de le faire et nous sommes des enfants de Dieu, nous aussi, on devrait être capable d'oublier les péchés des autres. les offenses des autres et de ne pas garder ça et de maintenir ça. À chaque fois que vous vous rappelez l'offense que quelqu'un vous a faite, ça vient de vous réarriver, de se reproduire pour vous. Admettons, mon épouse Mathilde m'a renversé une sauce à spaghetti sur mes beaux pantalons blancs. Et ça m'a affecté énormément. Et j'ai été blessé, j'ai pleuré, j'ai fait une crise de nerfs, comme ça m'arrive souvent. Mais là, je suis très, très, très blessé de ça, de cette chose-là. Ma femme me trouve que c'est une illustration vraiment intelligente, je le sais. Mais en tout cas, je suis blessé, tout ça. Et là, 10 ans plus tard, j'en parle encore. Mais ça démontre qu'à quelque part, c'est encore un problème. Et là, j'en parle à quelqu'un d'autre, puis je dis, tu sais, ma femme, elle me fait ça, puis je pense qu'elle voulait me brûler les jambes. Mais là, à chaque fois que j'en parle, c'est nouveau. À chaque fois, c'est nouveau. Savez-vous ça? Vous le revivez à nouveau, et c'est toujours frais. Dieu vous dit, laissez ça en arrière. Laissez ça en arrière. Si vous vous rappelez ces choses-là, c'est comme si ça vient d'arriver. Donc, laissez ça oublier, comme Dieu le fait. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez totalement oublier humainement parlant, parce que c'est impossible d'oublier certaines choses qui nous ont marquées profondément. Cependant, vous pouvez avoir l'attitude d'oublier. Dans le sens, vous n'allez pas vous remémorer ça constamment et méditer dessus. Et vous n'en parlerez pas à droite et à gauche que quelqu'un vous a fait du tort dans le passé. Voyez-vous, quelqu'un vous a vraiment blessé, c'est impossible humainement d'effacer ça de l'histoire. Quelqu'un qui a été violé, par exemple, ils vont s'en rappeler toute leur vie, même si on leur dit « oublie ça ». Et c'est impossible de l'oublier. Cependant, c'est possible de ne pas l'entretenir à chaque jour. Comprenez-vous la différence? Amen. Et ma mère, encore une fois, ça c'est une femme qui est capable d'oublier les fautes du passé facilement. Ça, ma mère, on va dire, quelqu'un va lui dire « Hey, tu te rappelles-tu quand Jean-Guy a fait ça? » Non, je m'en souviens pas. Mais vraiment, elle est comme ça parce qu'elle n'est pas offensée facilement. Amen. L'amour, c'est non seulement oublier, mais l'amour, c'est s'oublier, savoir considérer son prochain. Et Mathilde, moi, je trouve c'est une femme comme ça, qui sait facilement s'oublier. Elle s'oublie avec les enfants. Elle aime mieux dépenser des fois des choses pour les enfants que de s'acheter des choses pour elle-même. Elle sait s'oublier même dans ses privilèges d'épouse, dans le sens, elle peut me laisser partir pendant un temps pour aller prêcher et mettre de côté ma responsabilité de père. Et puis, elle va prendre les deux rôles pendant un temps. Comme quand j'allais dans l'Arctique, puis prêcher, puis j'étais parti pendant quasiment un mois, bien, elle a dû s'oublier. Elle aurait pu dire, « Hey, t'es un père, tu devrais rester ici. » Et puis, enforcer des choses, se défendre. Ou t'sais. Mais elle a accepté de s'oublier par amour pour Dieu. Et ça, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à s'oublier souvent pour le bienfait de l'Église de Jésus-Christ. Et puis même à ce jour, elle va s'oublier, Mathilde. Elle va s'oublier au lieu de dire, « Ben moi, je vais passer la journée à écouter des téléromans. » Elle n'écoute aucun, mais elle va aller faire du lavage. Elle va s'oublier. Elle va aller faire du lavage. Elle va faire l'épicerie. Après, elle dit, « Ben moi, je veux juste écouter du cinéma. » Mais non, elle va s'oublier. Elle va passer sa famille en avant. Parce que mon épouse, je peux vous dire, c'est une bonne maman, comme vous avez vu, hein? C'est une bonne mère. Et puis une bonne épouse. Donc, elle s'oublie pour le bienfait de sa famille. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 12 à 14. Ici, ça nous parle comment Dieu nous appelle à vraiment vivre ça et de se considérer. Ici, ça dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Donc, dans vos groupes vie, et dans la société en général, dans l'Église, ça dit que Dieu nous appelle ça dit d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec vous. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans la paix et certainement, on peut juste marcher dans la paix lorsqu'on marche dans l'amour. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc, Dieu nous appelle ici vraiment à marcher dans l'amour. C'est l'appel de Dieu pour nous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Savez-vous, s'il y a du péché dans le camp, Dieu nous demande d'avertir et d'écouter. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas correct. Mais il y a une façon de le faire, une façon de le faire pour gagner notre frère. Galates 6:1. Hein? Dieu nous dit, ça ne veut pas dire ignorer le problème, le péché, non, mais il y a une façon de le faire avec amour pour aller gagner la personne. Que Dieu nous donne cette chose-là. Et on va aller ensemble dans Romains chapitre 12, 9 à 16. Il est écrit dans Romains chapitre 12, versets 9 à 16, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire qu'on va passer les autres avant nous. On va laisser passer les autres avant nous. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je continue verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et c'est pas facile à faire. Ceux qui nous persécutent, de les bénir, c'est un défi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, c'est ça qu'on devrait faire. Quelqu'un est super triste, bien Dieu nous appelle à pleurer avec la personne, mais aussi de les encourager pour qu'ils puissent sortir de leur douleur. De ne pas faire semblant qu'ils ne sont pas affectés et dire, on est dans la victoire, nous autres. Hein? Non, non. Quelqu'un est triste. Bien, accueillez la personne dans sa souffrance. Mais après, laissez pas la personne dans la souffrance et dire c'est vrai, c'est la fin du monde. Non, mais il faut les relever. Amen. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Bon, c'est tous des bons conseils, n'est-ce pas? Amen. Et le dernier point ce matin, l'amour, c'est ouvrir son cœur et sa demeure. Il y en a qui vont dire ben, la première partie est correcte, mais ma demeure, non. Chez nous, c'est privé, il n'y a personne qui rentre chez nous. Connaissez-vous des gens comme ça? Non, je sais, il n'y a personne ici. Là. 1 Pierre 4, on va regarder ça ensemble. Est-ce que c'est biblique d'ouvrir sa maison? 1 Pierre 4, 7 à 11. On vient de le lire en passant, oui. L'hospitalité, ça veut dire qu'on va recevoir des gens chez nous. Mais si vous avez besoin d'un deuxième témoin pour vous affirmer la chose, 1 Pierre 4, 7 à 11, ça dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Ça ne veut pas dire qu'on ignore que le péché est là, mais ça veut dire que si on sait que quelqu'un a commis un péché, on ne fera pas l'étalage du péché à droite et à gauche pour commérer et parler contre, mais on va vouloir couvrir le péché, aller rencontrer la personne et suivre les étapes qu'on voit dans la parole de Dieu, et comme dans Galates 1, de relever un frère. Donc, ça ne veut pas dire qu'on couvre le péché à tout jamais dans le sens que il a fait un péché ou il marche dans le péché, on ne fait rien. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est dans le sens qu'on veut protéger la personne pour amener les étapes bibliques afin que la personne marche dans la sainteté. OK? Donc, mais cet amour, cette charité couvre une multitude de péchés. Et verset 9, exercez l'hospitalité. Dites hospitalité. Ce n'est pas l'hospitalisation, c'est l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Pourquoi vous pensez que Dieu a mis ça là? Sans murmure. Ça se peut-tu qu'il y en a qui vont murmurer? Ça se peut. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez tous un don et Dieu veut que vous puissiez le donner à tout le monde. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Dieu ne vous appelle pas à être quelqu'un d'autre. Moi, je n'essaie pas d'être un autre pasteur. J'essaie d'être Joel Spinks, le mieux que je peux. J'espère que Mathilde, ma femme, elle essaie d'être Mathilde Gaudreau, Spinks. Elle n'essaie pas d'être Tabitha Lemaire. Elle essaie d'être elle-même. C'est ça que Dieu veut, n'est-ce pas? Que nous soyons nous-mêmes. Et si nous sommes tous nous-mêmes, bien, on est bénis d'être nous-mêmes et les gens sont bénis de nous recevoir comme nous sommes. On n'est pas obligé d'être artificiel dans le corps de Christ. Il y a des gens qui disent, ah ben, moi, j'aime beaucoup un tel prédicateur, il prêche de ce ton-là, alors moi, je vais l'écouter puis je vais prêcher de la même façon. Et puis là, on voit ça, un prédicateur, il dit « Gloire à Jésus! » Et là, l'autre, qui est sous son ministère, il dit « Gloire à Jésus! » La même façon. Pourquoi? Dans le corps de Christ, pourquoi il y a autant d'imitations? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être juste nous-mêmes? On doit être nous-mêmes. Si vous ne m'aimez pas, c'est correct, au moins vous n'aimez pas le bon Joël. Mais si vous n'aimez pas le « Alléluia! » Mais peut-être que ce n'est jamais Joël Spinks que vous n'aimez pas, peut-être que c'était Pasteur Joe Blow. Comprenez-vous? Je suis mieux d'être moi-même et que vous n'aimez pas le vrai qui je suis que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et que vous n'aimez pas l'autre personne, puis peut-être que vous auriez vraiment aimé qui j'étais. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est compliqué? Mais c'est vrai. Donc, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu et puis selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et si vous vous dites, ben c'est bien beau, mais moi j'ai tellement de blessures, je suis pas capable d'aimer les gens, j'ai de la misère à recevoir l'amour, mais savez-vous, vous l'avez déjà l'amour, donc c'est impossible de dire que vous avez de la misère à recevoir de l'amour, parce que vous l'avez déjà en vous. Si vous êtes sauvé, un enfant de Dieu, Galates 5, 22, ça dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous l'avez déjà, il faut juste apprendre à relâcher cet amour-là. Donc, nous avons tous de l'amour à donner. Nous avons tous reçu de l'amour de Dieu quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui habite chaque croyant. Alors, le défi maintenant, c'est de marcher dans l'Esprit, marcher dans l'amour et de porter et de développer, laisser le Saint-Esprit développer le fruit de l'Esprit dans nos vies. Et imaginez si tout le monde se laissait développer comme ça, on serait rempli d'amour, de joie, de paix. Aïe, aïe, ça serait merveilleux. Pensez-y, vraiment, si on se laisse là vraiment gouverner par l'amour de Dieu, ça va être capotant qu'est-ce qu'on va vivre, n'est-ce pas? Moi, j'ai hâte de vivre ça. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des mères, et une des choses, Marie, peut-être vous avez entendu des choses que j'ai prononcées ce matin, et puis vous dites, ben moi, dans mon couple, souvent, bon, je ne suis pas prêt à relâcher facilement. Peut-être, au lieu de célébrer ma femme, peut-être je la critique un petit peu trop. Peut-être des choses que j'ai expliquées ce matin, vous réalisez que vous ne marchez pas nécessairement là-dedans. Savez-vous, il y a deux options devant vous. Vous allez dire, je continue comme ça, je suis faite de même, qu'est-ce que tu veux? Option numéro 1. Option numéro 2, c'est Proverbe 28, 13. On va regarder ensemble. Dernier verset. Proverbe 28, verset 13, ça dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, vous voulez la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, dites oui à Jésus quand Dieu met quelque chose. Peut-être que vous êtes une femme aussi, vous avez entendu ça, et même si la fête des mères, savez-vous, même vous, les femmes, vous pouvez vous repentir. Oui, je sais, on ne fait pas ça d'habitude à la fête des mères, mais même les mères peuvent se repentir et dire, ben, peut-être je manque de l'amour à un certain niveau. Savez-vous, on manque tous de l'amour. Il n'y a personne de parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait? Oui, on est parfait en Christ, mais dans notre nature, non, on n'est pas tous parfaits. Donc, j'ai besoin de grandir dans l'amour de Dieu et vous avez besoin de grandir dans l'amour de Dieu. Mais si on réalise, on déjoue les plans du diable. Et avant de démarrer un ministère comme les groupes de vie, je ne pourrais même pas considérer de faire ça si je n'avais pas la foi qu'on était pour être une église où on marcherait dans l'amour. Parce que ce serait un plan de sabotage. Si tout le monde, on n'est pas capable de pardonner, si on a une grosse dent contre quelqu'un le restant de nos jours, embarquez pas dans un groupe vie si vous refusez de relâcher les gens. Parce que je vous garantis, il y a quelqu'un qui va vous blesser à un moment donné. Mais on peut soit s'isoler ou... Dis, Seigneur, je m'isole de ce péché-là, je reçois ta guérison, je te laisse me guérir de mes bobos, et Seigneur, libère-moi. Et savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va vraiment le faire, vous libérer, et là, vous allez découvrir une famille comme vous n'avez jamais trouvée avant. Peut-être que vous n'avez jamais eu une vraie famille dans le naturel, peut-être votre vraie famille, ça va être à l'église. Savez-vous, c'est possible d'avoir des vrais frères, des vraies sœurs qui vont prier avec vous puis dire, « Hey, sais-tu, tu passes une épreuve, moi, je suis là avec toi, je vais prier pour toi. » Ils vont vous appeler dans le jour, la semaine, « Écoute, je sais que tu es malade de ce temps-ci, peux-tu prier avec toi? » En passant, Seigneur m'a dit de t'acheter une boîte de chocolat, je peux-tu aller t'y livrer? Hein? Non, mais c'est vrai. Il y a toutes sortes de façons, mais c'est ça le plan de Dieu. On regarde les versets ensemble. Le plan de Dieu, c'est que l'Église soit une famille, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse se soutenir. Et ensemble, on affronte les forces de l'ennemi. Ensemble, on prend du terrain et on voit des masses se tourner à Jésus. C'est le plan de Dieu. Amen. Alors, je veux vous encourager. On va pencher nos têtes ce matin. On va prier ensemble. On va remettre cette parole de marcher dans l'amour. On va vraiment le laisser descendre dans nos cœurs, pas juste dans nos têtes. Et puis, je vais inviter l'équipe de la louange. Amen. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous as montré comment aimer. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Tu as tout abandonné, tu as quitté la richesse du ciel, Seigneur, et tu t'es fait pauvre pour nous, Seigneur, pour qu'on puisse être enrichi, qu'on puisse découvrir cet vrai amour, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu nous as aimés. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour le dépôt de ton esprit qui est en dedans de nous. Seigneur, nous avons tous l'amour en dedans de nous, et je prie que chaque personne ici puisse prendre la décision de te laisser vraiment agir dans nos cœurs et dans nos vies. S'il y en a, Seigneur, des gens qui ont porté de l'amertume dans leur cœur, qui ont porté de la haine dans leur cœur. Je prie aujourd'hui pour la délivrance, la liberté, qu'ils soient libres à tout jamais, Seigneur Dieu, que les choses du passé soient oubliées, que ça soit jeté dans la mer de l'oubli, comme nos péchés, Seigneur, et que chaque personne puisse regarder de l'avant, en te regardant, Seigneur, en gardant nos yeux fixés sur toi, on ne peut pas se décourager. Parce que, Seigneur, tu n'es pas décourageant. Je prie, Seigneur, pour une révélation de ton amour dans le cœur de chaque personne. Pour ceux qui ont manqué de l'amour dans leur enfance, Seigneur, je prie que tu puisses combler ces vides, même aujourd'hui, que tu fasses un miracle aujourd'hui de ta présence, Seigneur Dieu. Que ton amour coule dans nos cœurs.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.